Bonjour à tous et bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique.
Qui est un complotiste ?
Ouais, qui sont-ils ?
On a des petites idées quand même.
Le tout-puissant lobby qui nous écrase.
C'est la fondation Rothschild.
Tu connais les Bilderberg ?
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ?
Libé, c'est complotiste.
Je suis très fier d'avoir été complotiste.
Conspiracy Watch.
Ouais, Conspiracy Watch.
Grand journaliste.
Piètres agents d'un système déclinant.
Des petites enflures.
Arrêtez de me traiter de complotiste.
C'est pas mon sujet, j'y connais rien.
Donc la lune est creuse.
On est des complotistes, on assume.
Ils veulent robotiser les êtres humains.
Nous sommes en train de vivre un génocide.
Vous avez fait le mal.
Les gens n'y croyaient pas. Vous voyez pas que vous êtes ridicule.
Ce n'est pas du complotisme extrême.
Je passe un très bon moment là.
Je suis l'aigle.
Numéro spécial, hors série, aujourd'hui avec la participation exceptionnelle d'Ariane Chemin et de Valérie Higounet. Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre petit studio pour cette dernière émission de l'année 2023. Bonjour Valérie Higounet.
Bonjour.
Valérie est directrice adjointe de Conspiracy Watch, historienne, autrice de nombreux travaux sur l'histoire du négationnisme et l'extrême droite. Tu as publié, Valérie, il y a quelques semaines, un remarquable roman graphique dont on a déjà parlé ici sur l'assassinat de Samuel Paty, Crayon Noir, avec Guy Lebesneré chez Studio Fact Édition. Ariane Chemin, vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, essayiste, et c'est un immense privilège de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment avec certaines de vos consoeurs, comme Raphaël Baquet sur Ségolène Royal ou les Strauss-Kahn, avec Vanessa Schneider sur Patrick Buisson, Le mauvais génie, qui était prix Bernard Mazière du livre politique 2015, avec Marie-France Etchegouin plus récemment, en 2021. Vous avez publié Raoult, une folie française, chez Gallimard, et vous avez sorti il y a quelques semaines un récit intitulé « Ne réveille pas les enfants », à propos de ce drame survenu à Montreux, en Suisse, en mars 2022, avec la défenestration de toute une famille. Nous avons environ une heure avec vous pour aborder votre métier de journaliste, le regard que vous portez sur les sujets qui nous préoccupent dans cette émission, le complotisme, la désinformation, le négationnisme aussi. Et donc la première question que je voudrais vous poser, avant de céder la parole à Valérie, c'est comment voyez-vous évoluer cette profession de journaliste ? Est-ce que vous êtes inquiète à l'heure des réseaux sociaux ? Est-ce que, pour vous, c'est un défi à relever ?
Je la vois évoluer, cette profession de journaliste, à toute allure, à vrai dire, mais de manière accélérée, comme s'il y avait une sorte de précipité depuis, je dirais, 5-6 ans. Le journalisme, il était assez tranquille, je dirais, dans les années 90-2000. On était... D'abord, le contexte a changé. Le contexte, on voit bien aujourd'hui, est à la joute, à l'affrontement. Et évidemment, tout ça déteint sur le journalisme. Et puis aussi, parce qu'on a vu apparaître des ennemis du journalisme, d'une certaine manière. On ne peut pas dire que l'intelligence artificielle soit une amie du journalisme. Les réseaux sociaux, souvent, sont des ennemis du journalisme. Les campagnes qui peuvent être lancées sur certaines chaînes Tout Info contre des journalistes, évidemment, ça, ce n'est pas agréable, mais c'est assez nouveau. Enfin, plus exactement, Valérie le dira mieux que moi, mais ça rappelle d'autres périodes de la vie politique française. Donc oui, ça évolue à toute allure. Je préfère rester optimiste et croire encore à ce métier. Par exemple, quand on me parle de la concurrence qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et le journalisme, moi je persiste à penser que le journalisme, la formule est connue, c'est penser contre soi-même et que justement l'intelligence artificielle, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est penser contre elle-même. Mmh. Donc voilà, je continue à croire au reportage, mais même le reportage, il est menacé par cette ère de complotisme, de fake news, etc. J'ai un exemple en tête très précis. Au mois d'octobre, il y a un obus qui est tombé tout près de la ville de Kharkiv, en Ukraine. Et il se trouve que moi, j'étais en reportage là, et avec l'équipe avec laquelle j'étais, on n'était pas très loin. Et donc, pour mon journal, Le Monde, on nous dit, est-ce que vous pouvez aller voir Et donc, on arrive quasiment les premiers sur le lieu du drame, où il y avait eu plusieurs morts. C'était le missile était tombé sur un centre de ce qu'on appelle la Nouvelle Poste, qui est une concurrence de la Poste ukrainienne, et qui s'est développée pendant la guerre, parce que les gens ont besoin d'envoyer des colis, de déménager, etc. Et c'était, on arrivait là, il y avait les camions rouges de la Nouvelle Poste dans cette cour de Kharkiv. Et j'ai raconté ça très vite sur le site du Monde. Et le lendemain, le traducteur ukrainien qui était là avec moi m'a montré ce que ça avait donné sur les chaînes d'information russes. Et en fait, les chaînes d'information russes, elles avaient modifié le décor. Les camions de la Nova Posta étaient remplacés par des camions militaires. Et ils expliquaient aux téléspectateurs russes que si un missile avait été envoyé sur ce centre de tri postal, c'était parce qu'en fait, c'était un centre militaire. Et c'est vrai que face à ça, je me suis sentie complètement démunie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, face à ce rouleau compresseur de désinformation? Alors évidemment, c'est la propagande de guerre, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la guerre partout et que la propagande est partout.
Il y a un autre sujet qui est que cette propagande, elle est parfois relayée par des mercenaires de la désinformation, par des désinformateurs professionnels. Alors, il y a eu dans le passé, il y a encore des désinformateurs négationnistes. Il y a aussi des désinformateurs complotistes. Comment les traiter ? Est-ce qu'il faut leur donner la parole ? Est-ce qu'il faut leur tendre les micros ? Jusqu'où ? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut les intégrer à des états généraux du journalisme ou de la presse ou de l'information ? Ou est-ce qu'il faut les laisser à l'écart ? Est-ce qu'on peut encore se permettre le luxe de les ignorer ?
Immense dilemme que vous connaissez évidemment tous les deux beaucoup mieux que moi. C'est votre, le sujet de votre réflexion. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait face à ceux qui nient l'évidence, les reportages, qui appliquent des grilles de lecture idéologiques, par exemple à des faits divers sans avoir mis les pieds sur le lieu où ça se passait? C'est une question extrêmement compliquée. Nous, on a la faiblesse de penser au monde comme on a un site qui quand même est un des premiers sites français, ouais. Qu'on ne fait pas attention à ça et on continue à écrire et on ne fait pas attention aux attaques et on fait notre travail le mieux possible. Mais jusqu'à quand, quoi ? C'est vrai qu'on voit bien comment des campagnes politiques, par exemple, se sont faites autour de chaînes de télévision comme Fox News aux États-Unis qui a porté la candidature de Donald Trump. Ouais. Aujourd'hui, ça, je pense qu'on en est là en France, avec, par exemple avec CNews. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Le mieux, c'est d'essayer de faire son travail le mieux possible. Hein. Mais quand on a face à soi des gens qui se disent anti-système et qui nous expliquent que, alors qu'ils prennent de plus en plus de place, que nous sommes le système et que nous allons contre ce système-là, va contre la vérité. Je pense par exemple au drame de fait divers de Crépol qui a occupé un nombre d'heures de télévision absolument incroyable. C'est vrai que c'est très compliqué. On a l'impression de jouer à front renversé.
Justement, là, on va peut-être aborder la question du négationnisme. Vous avez choisi à un moment, pendant l'été 2012, hein, de revenir sur cette publication de décembre 1978 hein, par Le Monde, hein, justement, d'un tract de Robert Forisson, où, qu'on peut considérer peut-être avec cette publication comme un des points de départ fondamentaux du négationnisme avec Robert Forisson. Pourquoi justement avoir décidé de revenir sur cette publication justement par rapport à ce qu'on dit, c'est-à-dire on redonne une certaine aura, si l'on peut dire, à Robert Forisson?
Alors c'était dans le cadre d'un anniversaire du Monde, les 70 ans du Monde, et on s'était interrogé avec ma consoeur Raphaël Baquet sur la manière de traiter ça. Et on s'est dit, en fait, on va essayer de faire un peu d'autocritique, ce qui n'est pas si fréquent dans la presse. Hein. On célèbre souvent des anniversaires, le quotidien, etc. Et c'est jamais le cas. À ce propos, d'ailleurs, je trouve que ce qu'a fait la Croix cet été, quand ils sont revenus sur l'antisémitisme historique de la Croix,
absolument,
était quelque chose d'assez...
Courageux, fort, ouais.
Voilà, et c'est assez rare que les médias fassent eux-mêmes la critique de leurs propres médias. Oui. Donc on avait choisi des histoires pour raconter aussi l'époque. On avait raconté par exemple comment très longtemps les femmes étaient restées à l'extérieur de la direction du Monde. Donc par exemple la première fois qu'une femme avait été nommée chef de service, ou comment Le Monde avait pu traiter l'entrée des Khmers Rouges à Phnom Penh, ou voilà. Et en lisant d'ailleurs, Valérie, votre livre, la biographie de Robert Forisson, j'étais tombée, je l'avais lu avec intérêt, et j'étais tombée sur cette page où vous racontiez qu'il avait écrit dans Le Monde, et je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais demander au service de documentation de m'exhumer ça, et est-ce que ce ne serait pas un épisode de cette série d'articles que nous avons l'intention de faire? Et donc, ça m'a passionnée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un épisode assez méconnu, je pense que vous serez d'accord, de la vie de Robert Forisson. C'est un épisode complètement méconnu de la vie de l'histoire du Monde, parce que j'avais lu aussi tout ce qui s'était fait, les biographies du Berbeuf-Méry, etc. Et puis, c'était l'occasion aussi de raconter qu'on ne peut pas se saisir d'une histoire comme ça sans la contextualiser. Et c'est ça qui était intéressant. Parce que, évidemment, les responsables du Monde qui, dans les années 70, ont fini par céder aux courriers incessants de Robert Forisson qui voulait absolument écrire une tribune dans Le Monde. Évidemment qu'ils n'étaient pas négationnistes, évidemment qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de nier l'existence des chambres à gaz. Mais on était dans une période du tout liberté où, après tout, on pouvait confronter les opinions et personne n'a imaginé le danger que pourrait représenter le fait de passer cette tribune de Robert Forisson où il mettait en doute l'existence des chambres à gaz. Et d'ailleurs, à l'époque, la présentation, quand on la regarde aujourd'hui, rien n'allait dans ce qui avait été fait. On avait une sorte de débat sur le sujet, mais je pense que ces hommes de bonne volonté du monde de ces années-là, qui étaient des défenseurs absolus de la liberté, n'ont pas compris, effectivement, comme le disait Valérie, que ça a été le début d'une remise en selle de Robert Forisson. C'est d'ailleurs, je crois, l'historien Pierre Vidal-Lacay qui l'avait analysé comme ça. Et c'était intéressant de raconter toute cette histoire, d'aller interroger les protagonistes de l'époque. En l'occurrence, à l'époque, Robert Forisson était toujours en vie, donc j'avais même été le voir chez lui à Vichy. Et rien que ça, d'ailleurs, avait été une question qui s'était posée avec mes chefs de service, et j'en avais discuté avec des confrères et des consoeurs. Est-ce que je vais rendre visite à Robert Forisson ? C'est un autre sujet, mais rien que ça, c'était compliqué, quoi. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Des procès s'en sont suivis. En plus, je trouve qu'heureusement, le monde les a gagnés. Mais je trouve que c'est toujours mieux de faire son autocritique, quitte à donner effectivement un peu de biscuit à ceux qui veulent critiquer le monde, parce que régulièrement, les anti-mondes, si je puis dire, se servent de cet article pour dire, regardez, Le Monde avait ouvert ses colonnes à Robert Forisson, sans en dire plus, et puis les gens ne sont pas abonnés, et puis voilà, c'est de nouveau une curée sur les réseaux sociaux, enfin, tout ça est très compliqué, mais je pense qu'il faut faire ce travail-là d'introspection.
Il y a deux choses importantes là, dans ce que vous soulignez. La première, c'est que en décembre 78, évidemment qu'il n'y avait pas Internet, il faut le rappeler quand même. Hein. Et que c'est vrai que le chapeau du monde explique aussi le pourquoi. On est dans un contexte comme à chaque fois, hein, où les choses s'accélèrent, c'est-à-dire cette publication de Louis Derquet de Pellepoix, hein, dans l'Express, avec cette couverture, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux, etc. Donc, il y a un contexte qui pour eux, j'allais dire les accule presque, même si le terme est un peu fort, les pousse en se disant que les thèses de Forisson vont s'annihiler d'elles-mêmes. Et justement, comme vous dites, il y a une espèce de pseudo-débat avec des historiens qui répondent assez maladroitement sur Forisson. La deuxième chose qui est primordiale, c'est que oui, il fait un procès comme à chaque fois qu'il fait un procès quand on parle de lui. C'est leur méthode, hein, ce sont leurs méthodes de se faire entendre. Mais tout a changé avec ce procès. C'est-à-dire que l'issue du procès que vous avez gagné avec cette publication, c'est justement que Forisson, on peut, depuis 2017,
le qualifier de faussaire, de menteur professionnel, ce qui avait été mon cas, où j'avais d'ailleurs repris certains propos de Pierre Vidal-Lacay. Oui, dans la juridiction sur le négationnisme, ça a été un petit tournant et qui doit, je pense, à l'époque, parce que je me souviens, à vrai dire, plus que des articles, c'est un peu ma fierté d'avoir gagné ce procès contre Robert Forisson, puisque je l'avais gagné avec ce qu'on appelle l'exception de vérité, ce qui est assez rare dans le journalisme. Je me souviens d'ailleurs que le jour où j'avais gagné ce procès, j'avais reçu pour la première fois de ma vie un coup de téléphone de Robert Badinter, qui m'avait expliqué d'ailleurs très de manière intéressante comment l'époque avait changé, puisque lui, il avait gagné, plus exactement, Robert Forisson n'avait pas gagné, parce qu'on l'avait laissé, c'était le bénéfice du doute. Et en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est effectivement un changement d'époque. Je me souviens que l'avocate générale était très jeune et qu'au moment où on m'a demandé de m'expliquer pourquoi j'avais utilisé ces formules, pourquoi j'avais traité Forisson de menteur, il y avait eu une suspension de séance et j'avais discuté avec l'un des avocats du Monde qui n'était pas du tout un spécialiste de la diffamation sur ce genre de sujet et qui m'avait dit « mais je ne comprends pas quand même la loi Guesso ». Et puis la séance avait repris, et quand j'avais été appelée à nouveau à la barre, j'avais raconté ça. J'avais dit, en fait, je suis une enfant de la loi Guesso. Moi, on m'a dit qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, des mensonges qu'on ne pouvait pas faire. Et je sentais que l'avocat général, elle écoutait, et il y avait quelque chose de nouveau dans cette argumentation qui était, que je n'avais pas du tout préparée, et qui était d'ailleurs assez naïve, mais qui peut-être a permis d'emporter ce jugement.
On parle beaucoup de l'extrême droite, là, vous avez consacré des papiers au pape François et à la manière dont il est vu par une partie de l'extrême droite traditionnaliste, alors catholique traditionnaliste, et l'extrême droite identitaire également. Comment est-ce qu'il est devenu une figure détestée, ce pape François, qui reste conservateur sur un tas de sujets, évidemment.
Bien sûr, sur l'avortement, sur, ouais. C'est un pape qui s'inscrit dans, effectivement dans la lignée des papes à Rome, je crois tout simplement parce que c'est un défenseur des migrants. Et c'est vrai que je me suis penchée sur ce sujet parce que je devais suivre sa visite à Marseille, qui sera sans doute, d'ailleurs, qui sera sans doute l'une des dernières visites du pape François, parce qu'il est âgé, il est malade, il a tenu à le faire, à rendre visite à la France qu'on a toujours appelée la fille aînée de l'Église, à Marseille et pas à Paris. Donc c'était quand même un signe. En préparant ce voyage et en lisant, en écoutant, en discutant, je me suis rendu compte peut-être que pour la première fois, il y avait des catholiques français qui ne voulaient pas aller écouter le pape, qui d'une certaine manière ne le reconnaissaient pas. Et ça, à mon avis, c'est nouveau. Il se trouve que je le connaissais un peu, ce pape François, pour avoir fait une série d'articles sur sa vie. J'étais allée en Argentine, j'avais suivi ses périples. Je connais maintenant assez bien son histoire. J'avais notamment été fascinée de découvrir que ses grands-parents avaient partie de ces émigrés qui avaient choisi l'Argentine et qui d'ailleurs avaient failli mourir dans un voyage en mer, mais ils avaient raté le bateau qu'ils voulaient prendre pour des raisons administratives. Je pense que ça est resté très vivace dans l'esprit du pape François. Et j'ai découvert effectivement que pour certains catholiques, dans une tradition très maurassienne qui fait du catholicisme d'abord une arme politique avant d'être une foi, eh bien le pape François, ça ne leur parlait plus. Et même qu'ils avaient décidé de le bouder. Et ça, je pense que c'est aussi un tournant dans la vie politique française.
L'homophobie, vous avez fait plusieurs papiers aussi sur cette question-là. Il se passe aujourd'hui en Russie une sorte de politisation de cette question-là, c'est-à-dire que l'activisme anti-homophobie est requalifié en activisme LGBT, d'une sorte d'internationale LGBT, qui est aujourd'hui interdite, considérée comme agent de l'étranger, avec des descentes dans des lieux fréquentés par les gays, par les LGBT, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Comment vous voyez ça? C'est une forme de régression? Est-ce que tout régime autoritaire se sent menacé par cette question-là?
Voilà. On voit que tout régime autoritaire se sent menacé. C'est très visible, par exemple, en Russie. Où ça reste une obsession de Poutine alors qu'il a en 2022 lancé la guerre contre l'Ukraine. On voit que il a scié son autoritarisme sur une panoplie de valeurs dans lequel il y a notamment la lutte contre l'homosexualité. Effectivement, on a l'impression que rien ne change. Alors moi, je connais pas forcément très bien ce sujet-là, ouais. Mais il m'a intéressé de replonger dans l'histoire non pas de l'homophobie, mais de m'interroger sur la manière dont les homosexuels français avaient été traités. Et en découvrant un jour, par hasard, sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales, un article d'un jeune spécialiste de ces questions qui expliquait que jusqu'en 1982, l'homosexuel français était passible de peine de prison si la liaison concernait des personnes entre 16 et 21 ans, ce qui n'était pas le cas pour les hétérosexuels. Je me suis plongée dans cette...
Il y avait encore cette petite discrimination.
Jusqu'en 82, on pouvait même faire 82. De la prison, on était passible d'amende. Et je me suis plongée là-dedans et je pense qu'en fait... explorer son histoire, c'est toujours intéressant. D'abord parce que ça rappelle à des jeunes générations que beaucoup d'autres se sont battus avant eux. C'est ça qui s'est passé d'ailleurs. J'ai été interrogée des hommes très âgés, dont beaucoup d'ailleurs avaient disparu suite à l'épidémie de sida, et qui m'ont raconté leur combat. Mais en fait, ça m'a bouleversée, ce combat-là, parce que c'est quelque chose qui était complètement dans mon impensée, que je ne connaissais pas. Et je pense que parfois, de ressusciter des pans d'histoire, comme ça, ça permet aux générations qui suivent d'être plus fortes et plus savante, à vrai dire, connaître l'histoire de sa lutte, si je puis dire, pour ce, eh bien, c'est toujours un plus et ça permet d'être mieux armé face à ceux qui sont de vrais homophobes.
Ariane, justement, vous parlez de l'homosexualité. Il y a un sondage IFOP pour SIDAction qui a révélé récemment, hein, il y a quelques deux semaines, que 30% des 15-24 ans pensent que le virus du sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive. Un quart d'entre eux pensent qu'on peut se transmettre le sida en buvant dans le verre d'une personne séropositive. Qu'est-ce que ça vous dit, à vous, en tant que journaliste, sur la manière dont les jeunes s'informent, la manière dont les jeunes sont sensibilisés à ces questions, qui, pour nous, notre génération, était évidente, quoi. On se rappelle tous du baiser de Clémentine Célarier à cet homme séropositif. On l'a tous vu, c'était une image très, très forte. Ces jeunes-là, de 15-24 ans, apparemment, ils ne la connaissent pas, cette image.
Oui, c'est la question de la transmission de la mémoire. Tout glisse, tout s'efface. En fait, ce que disent ces jeunes, c'est ce que disaient les Français au tout début, et les Américains au tout début de l'épidémie du sida. Mais c'est là où on avait l'excuse de l'ignorance. Hein. C'était une maladie inconnue, tout le monde tâtonnait. Bon, évidemment, après, des progrès ont été faits très rapidement et on a compris, grâce à la médecine, que ce n'était pas du tout comme ça que se transmettait le sida. En fait, ça me rappelle un peu l'épisode du Covid. C'est-à-dire que je pense qu'on est rentré dans une ère de la croyance et non plus dans une ère de la raison. On a l'impression que la France, qui est le pays des Lumières, le pays du rationnel, tout d'un coup, cet héritage est balayé et qu'aujourd'hui, on croit. La science, la médecine, ce serait une croyance comme les autres. Et c'est en ça que j'avais trouvé très intéressant de me pencher avec Marie-Françoise Chéguin sur l'histoire de Didier Raoult, parce que c'est une exception française. Dans aucun autre pays en France, on a connu comme ça l'explosion médiatique d'une sorte de gourou, on pourrait dire.
Il y avait une bonne nouvelle. Alors, toute chose égale par ailleurs, Faurisson parlait de bonne nouvelle sur les chambres à gaz, ça n'a pas existé, donc c'est une bonne nouvelle. Mais Raoult, il arrive dans l'espace médiatique fin février 2020 avec une bonne nouvelle qui est: on a un traitement, il existe, il est pas cher et il soigne le Covid.
Oui, et tout le monde, tout le monde le veut le croire, à commencer par les politiques. Localement, autour de Marseille, à Nice, dans la région des Bouches-du-Rhône, etc. C'est resté très longtemps un héros, même après les premières études qui infirmaient complètement ses propos. On avait besoin d'un sauveur, et dans les périodes de troubles, on a toujours besoin d'un sauveur, c'est très dangereux. Donc c'est vrai que ça a été une exception française, puisque Raoult s'est fait même connaître internationalement, comme par hasard. Il a été adulé par tous les leaders populistes, je pense à Elon Musk, je pense à Bolsonaro, je pense à Trump. Mais en France, quand même, il est resté très longtemps, et aujourd'hui encore, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il est... Voilà, on a l'impression que tout le monde ment, que tout le monde veut lui nuire, que... Donc c'est pas facile, d'autant que c'est en plus très compliqué. C'est plus compliqué l'histoire du Covid. Bon, même chose, c'est comme pour le sida. Tout d'un coup, une épidémie qui s'abat, sur laquelle on ne connaît rien. Il faut se souvenir du nombre de morts dans les premières semaines. On a un peu oublié, mais c'est vrai que la première semaine de mars 2020, tout le monde connaît quelqu'un autour de soi qui est mort du Covid. C'est pas rien. Et donc, effectivement, on avait besoin de quelqu'un. En plus, il avait tous les diplômes possibles. Ça a été un excellent épidémiologiste. Et donc, on a envie de le croire. Et ça, ça raconte quelque chose de l'époque.
Oui, et puis je pense justement à ces personnes aussi qu'il a mises en avant. Hein. Je pense par exemple à Florian Philippot ou d'autres, ou Christian Perronne, quoi. Il était quand même dans cette communauté. Et malgré tout ça, c'est vrai que, comme vous le soulignez, quoi, il y avait une croyance pour ce qu'il disait. Parce que justement, les choses étaient différentes de l'histoire officielle, j'allais dire, hein, et que ça pouvait rassurer certaines personnes. Je revois cette queue devant l'hôpital où il exerçait, où X personnes, justement, voulaient avoir son traitement, quoi.
Oui, c'est le bon mot. Il a créé autour de lui, il a fédéré différentes petites communautés qui se retrouvaient dans une grande communauté. Alors, par exemple, il y avait la petite communauté des Marseillais, qui trouvaient que, franchement, les Parisiens, ils sont trop jacobins, trop sur deux. Voilà. Il y avait la petite communauté qui était anti-vax depuis très longtemps, hein, qui trouvait qu'on faisait trop de vaccins. Je pense à certains élus verts, par exemple. Bon. Il a fédéré mille choses comme ça, des formes de poujadisme différents, et il s'est retrouvé en espèce de héros de druide, j'allais dire, c'était le mot qui revenait souvent, parce que voilà, ça rappelait quelque chose de l'inconscient français, je sais pas, j'imagine, breton. Et en cela, il est une figure intéressante à observer.
Et comme d'autres, il a mis en avant aussi sa panoplie de scientifiques. Je pense, on parlait de Forisson tout à l'heure, qui mettait en avant qu'il était universitaire, ce qui était vrai d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que quand on met ses vêtements, on est encore plus dans la recherche, entre guillemets, de la vérité, comme ils disent, quoi.
Oui, ils sont tous les deux à la fois, ils étaient tous les deux universitaires, mais ils montaient quand même un peu sur leur CV. On a toujours...
Oui.
Forisson disait toujours, je suis prof d'histoire, il n'était pas du tout, il était agrégé de littérature, oui. Hein, si je ne me trompe pas. Donc, à chaque fois, il y a toujours des petits biais. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que souvent... on impose une vérité en trafiquant un petit peu le réel, juste à la marge, mais ça marche.
Qu'est-ce que vous avez appris avec Marie-France Etchegouin sur Raoult que vous ne saviez pas avant de commencer votre enquête sur lui ?
Son parcours, déjà. Un parcours, par exemple, africain, où la chloroquine était là, posée sur la table des repas de famille, puisque lui vivait avec son père, qui était médecin en Afrique, et où c'était une sorte de...
C'est un antipaludique, hein, le plaquenil, hein, l'hydroxychloroquine.
Un antipaludique. Donc, en fait, d'une certaine manière, il y avait ce côté très attractif aussi chez Raoult. C'est que le remède qu'il préconisait, c'était un remède pas cher. C'était pas quelque chose qui allait enrichir les labos. Hein. Et d'ailleurs, après, il a fait de cette thématique, les vaccins, les labos qui s'enrichissent, l'un de ses éléments de langage pour contester le vaccin. D'ailleurs, j'ai toujours été très frappée de voir que il n'avait jamais voulu dire s'ils étaient vaccinés. Il conseillait tous ses amis proches de le faire. Et puis, en revanche, à ceux qui étaient moins informés, c'est-à-dire le grand public, ils ne tenaient pas le même discours. Hein. C'est toujours gênant.
Et on sait que Michel Onfray, qui était un moment proche de lui, s'est vu recommander par son médecin personnel, parce qu'il avait des troubles cardiaques ou une fragilité de ce côté-là, de ne pas utiliser de chloroquine. Et on sait que Raoult, tu en as beaucoup voulu.
Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que Michel Onfray, il a été séduit par le Marseillais, qui n'était pas parisien comme lui. Lui est normand, ça lui a plu. Et, en revanche, quand il est tombé malade, il a cessé de suivre les conseils de Didier Raoult. On mesure toujours les vérités à l'autre de sa porte et de sa fenêtre.
La figure de l'outsider. La chloroquine, elle a été classée sur la liste des médicaments, enfin des substances vénéneuses par la ministre de la Santé de l'époque, au mois de janvier 2020, ce qui a fait énormément fantasmer. Donc Agnès Buzyn signe effectivement un papier qui classe ces substances dans la catégorie des substances vénéneuses. Agnès Buzyn, vous l'avez interviewée. On se souvient de cet article retentissant, publié, si je ne me trompe pas, le premier jour de l'entrée en vigueur du confinement, le 17 mars 2020, et elle parle de mascarade. On parlait du premier tour maintenu des élections municipales, ce qui, là aussi, a permis d'accrocher tous les fantasmes complotistes, disant « mais regardez, donc on nous ment », etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ces confessions d'Agnès Buzyn ?
D'abord que le récit qu'elle en fait n'est pas juste. Alors je lui en veux un peu parce que je trouve qu'elle aurait dû raconter exactement comment c'était passé, ce qu'elle n'a jamais fait, hein, y compris dans son dernier livre, donc je lui en veux un peu. Agnès Buzyn, c'est quand même un cas assez intéressant. Je pense que c'est la seule ministre de la Santé de tous les pays du monde qui démissionne en pleine pandémie. Je pense qu'elle le regrette amèrement. Elle dit qu'elle y a été poussée par Emmanuel Macron, mais enfin, on peut toujours dire non. Donc, si elle était à ce point persuadée qu'on rentrait dans une épidémie gravissime, je trouve étrange qu'elle quitte le ministère de la Santé. Ça, c'est la première chose. Et c'est justement pour cela que je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'aller la voir, avec un a priori tout à fait favorable. En plus, je voudrais qu'elle m'explique ce qui se passe. Hein. Et quand j'ai commencé cette enquête, alors que je pensais y passer 15 jours, j'ai juste laissé un texto en lui disant, j'aimerais bien vous parler. Et c'est elle qui m'a dit, appelez-moi. Donc je l'ai rappelé. Hein. Et là, effectivement, elle m'a raconté ça. Je pense qu'elle venait de perdre l'élection municipale à Paris. Je pense qu'elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. J'étais ministre de la Santé, j'ai quitté mon poste, j'ai perdu cette municipale. Et elle a vu durant sa campagne, effectivement, que l'épidémie s'aggravait. Mais elle ne pouvait pas le dire. Et pour cause, elle avait quitté le ministère. Donc, je pense qu'elle était dans une situation extrêmement compliquée. C'est vrai qu'elle s'était toujours méfiée, à raison, de Didier Raoult. Elle faisait partie des gens qui trouvaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à l'IHU de Marseille, l'institut que dirigeait le professeur Raoult. Mais je pense que ce n'est pas trop à elle aujourd'hui de donner des leçons, parce qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans son comportement, à moins qu'on le lise en se disant « ben voilà, elle a cédé à la vanité, à l'hubris, à l'ambition politique, au lieu de s'intéresser d'abord à l'épidémie ». Moi, je ne suis pas capable de dire si c'est la vérité, mais enfin, on est obligé de se poser la question.
Elle a aussi été, si je ne me trompe pas, la première ministre de la Santé du monde entier à faire une conférence de presse pour dire « attention, il y a des vols entre Paris et Wuhan ». On est quelques jours après le 20 janvier.
Mais comme ministre de la Santé, elle a été.
Et qui dit, attention, elle pourrait arriver, cette épidémie.
C'est le paradoxe. Elle, comme ministre de la Santé, elle a été la première lanceuse d'alerte. Elle a été parfaite. Elle a vu l'épidémie arriver. Ensuite, il y a eu un petit creux. Et après, elle a cédé aux sirènes de son ambition. C'est-à-dire, on lui dit, est-ce que tu ne voudrais pas être tête de liste aux élections municipales à Paris, parce que Benjamin Griveaux avait été empêché, vous vous souvenez de toute l'affaire. Et la question demeure, pourquoi accepte-t-elle? On peut toujours dire non dans la vie, elle ne l'a pas fait.
Plusieurs plaintes ont été déposées contre le Premier ministre, contre donc, les deux ministres de la Santé successifs, Agnès Buzyn et Olivier Véran, à ce moment-là, qui ont été instruites par la Cour de justice de la République, et qui a donné lieu, dans le cas d'Agnès Buzyn, une mise en examen qui finalement a été annulée par la Cour de cassation. Et ces mises en examen, elles se basent sur des plaintes, notamment rédigées, une sorte de class action, par Fabrice Divisio, qui était l'avocat de Didier Raoult.
Bien sûr. Non, mais moi, j'ai trouvé que la CJR était totalement excessive. La mise en examen d'Agnès Buzyn m'a gênée, parce que c'est une femme qui est une excellente médecin, qui a été, quand elle était ministre, une bonne ministre de la Santé. Pour avoir été interrogée moi-même par la CJR, j'étais extrêmement gênée par le tour que prenait l'interrogatoire, et d'ailleurs, je l'ai fait consigner dans un procès-verbal, parce que je trouvais que c'était des questions à charge. Voilà, donc moi j'ai aucune inimitié personnelle pour Agnès Buzyn et simplement je regrette qu'elle ne soit pas restée au ministère de la Santé.
Peut-être aussi dire que Fabrice Divisio était l'avocat aussi d'une des protagonistes, d'une des femmes du drame de Montreux, de votre dernier livre.
Fabrice Divisio, que les gens connaissent puisqu'il était l'un des protagonistes de l'émission de Cyril Hanouna sur C8, voilà, anti-vax, défenseur de Didier Raoult. Effectivement, Valérie, vous avez raison, elle a défendu dans un... l'une des petites filles de Mouloud Feraoun, qui d'ailleurs, quelques temps après, s'est donc défenestrée d'un immeuble à Montreux, alors qu'elle était dentiste en Normandie. Mais je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions rapides, parce que la vérité, c'est qu'il était l'avocat de tas de médecins. Mmh. Et donc, je pense qu'elle s'adresse à lui, parce qu'on doit lui dire, voilà, lui, il a l'habitude de défendre des médecins, vous avez des problèmes avec votre patientèle, vous pouvez le prendre, on est quand même... presque 10 ans avant le Covid, il n'a pas encore développé de discours anti-vax, complotistes, etc. Donc j'ai pas voulu justement, c'est un cas précis où on se dit, restons dans le contexte, ne faisons pas d'amalgame, je le cite, mais je le souligne pas.
Oui, mais justement, dans votre dernier ouvrage, Ne réveillez pas les enfants, vous faites état quand même d'une famille... on va dire légèrement peut-être, entre guillemets en tout cas, prise par le complotisme et le survivalisme.
Tout à fait. Et d'ailleurs, au début, quand je me lance dans cette enquête, je me dis, mais c'est le fait divers de l'époque du Covid. Comment les petites filles d'un homme qui ne croyait qu'à l'école, qu'à l'enseignement, qu'à la raison, Mouloud Feraoun, donc, qui était inspecteur de l'éducation nationale, comment ont-elles pu verser dans une telle méfiance à l'égard de la science, elle-même étant l'une et l'autre des petites filles dentistes et internes des hôpitaux de Paris, spécialistes. Donc, c'est vrai que ça me fascinait et ça raconte tellement l'époque. Il se trouve que de le fait, leur comportement a encore varié à l'époque du Covid, mais d'une certaine manière, cette famille vivait déjà confinée, déjà hors du monde, se méfiait de tout, pour des raisons qui ne sont pas forcément celles qu'on croit, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Et le Covid a accentué en fait cette espèce de travers. Donc on a dit que c'était une secte, elle vivait dans ce phénomène de secte survivaliste. Je crois surtout qu'elles étaient paranoïaques. Mais c'est vrai que ça raconte souvent l'époque. Et d'ailleurs, quand j'étais voir à l'occasion de ce livre un grand psychiatre parisien, spécialiste des paranoïas transgénérationnelles, il m'a dit, mais vous savez, pendant l'époque du Covid, on a vu se développer ce qu'on appelle les paranoïas à deux. C'est-à-dire qu'un couple dans son appartement pouvait devenir paranoïaque à l'occasion de cette épidémie de Covid. Donc c'est vrai que c'est fascinant et que cette épidémie, dans le contexte de défiance généralisée, n'a rien arrangé.
Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, puisque vous êtes celle, la journaliste, qui a révélé l'affaire Benalla à l'été 2018, quelques jours après la Coupe du monde de football, où la France est victorieuse. Et vous avez tiré d'ailleurs une BD publiée en 2020 avec François Krug, dessin de Julien Solé, Benalla et moi. Et à cette occasion, on a vu, du côté de l'Élysée, pas de manière forcément extrêmement forte, mais tout de même, cette tentation du conspirationnisme, l'idée que cette affaire sortait pour casser l'effet Coupe du Monde. Vous vous rappelez de ça ?
Bien sûr. Non, mais j'ai vu toute la contre-offensive de l'Élysée. Alors, il y a une contre-offensive classique, enfin, que tous les observateurs du pouvoir connaissent, c'est-à-dire qu'on commence à nier les faits. Alors, comme on vit à l'époque des réseaux sociaux, il y avait des conseillers d'Emmanuel Macron, je pense à Ismaël Emelian, qui faisaient circuler des vidéos qui n'étaient pas celles de la contre-escarpe où s'était passée cette algarade entre deux jeunes gens et Alexandre Benalla. J'ai lu dans la presse, notamment dans le JDD, que ces deux jeunes gens, on l'a démontré évidemment l'inverse après, étaient des black blocs militants de l'extrême-gauche, totalement faux. Bon, ça, c'est classique. Hein. C'est assez, quand on le vit de près, c'est assez désagréable. On voit comment la presse peut être de mèche avec des avocats. C'est assez édifiant et à vivre, et parfois inquiétant, mais on peut encore aujourd'hui montrer que tout ça est faux, ce qui a été le cas pour ces manifestants qui se trouvaient vraiment là par hasard ce jour-là et qui effectivement ont reconnu qu'ils ont envoyé un cendrier, une bouteille sur ce qu'ils croyaient être celui dont ils pensaient qu'il était un policier, Alexandre Benalla, mais qui ne l'était pas. Bon. En revanche, c'est vrai que auprès de certaines personnes, jamais pu les convaincre que tout ça était, comme toujours dans le journalisme, le fruit de beaucoup de hasards, que le journalisme restait très artisanal, que si j'avais sorti cette affaire à ce moment-là, c'est que je devais précisément partir en Argentine pour écrire une série d'articles sur le pape et que je voulais quand même me dépêcher, que je n'avais pas, que l'épisode de la Coupe du Monde m'avait d'ailleurs un peu retardé parce qu'il se trouve que j'étais de permanence et que je devais faire le récit.
Donc rien
de
à
Paris.
Voir avec une volonté
mais
de votre part de casser
pas.
Un effet.
Aucun, rien à voir. Donc aussi bien le timing que la manière dont se passe tout ça, il n'y a aucune intention de ma part de se dire tiens, je vais ennuyer le président de la République parce que je ne l'aime pas. Mais tout ça est complètement faux. Mais c'est très difficile d'en persuader même vos meilleurs amis. Donc c'est fascinant et c'est désespérant.
Alors la stratégie du complotisme comme autodéfense, c'est aussi ce qu'on a vu au moment de l'affaire Strauss-Kahn en 2011, l'affaire du Sofitel, chez ses proches en particulier, une partie de ses proches qui ont immédiatement interprété cette affaire-là comme un guet-apens, un complot, voire un complot de l'Élysée à l'époque. L'Élysée, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque. Comme vous avez travaillé justement sur les Strauss-Kahn, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, vu qu'on a maintenant suffisamment de recul pour en parler ?
Je me souviens, après l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel de New York, je me souviens d'abord des éléments de langage du Parti Socialiste. Cela ne lui ressemble pas, ce n'est pas lui. Bon, tout ça était des mensonges, mais on a l'habitude. Hein, ça, c'est des contre-attaques politiques classiques. Effectivement, après, tout le monde a voulu y voir la main de Nicolas Sarkozy. On a enquêté sur les grands flics qui étaient à l'époque autour de lui. Moi, je ne dis qu'une chose, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle sans être totalement transparent. Vous êtes passé au radar. Tout ce qui, dans votre vie, vous avez fait dans votre vie, apparaît un jour ou l'autre, ce qui n'était pas forcément le cas, notamment en ce qui concerne la vie privée, auparavant, dans la Ve République. Dominique Strauss-Kahn, il avait un talon d'Achille. C'était son goût immodéré, je dirais pas seulement pour les femmes, pour les partouzes, une espèce d'appétit incontrôlable et grossier dès qu'il était en présence d'une femme. Je pense d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de chance que tout ça se passe avant MeToo, parce que je pense que la presse l'aurait traité de manière beaucoup plus cruelle, et je pense que la presse française s'est très bien tenue, contrairement à ce que avaient dit ses avocats. Et donc, tout ça, évidemment, était une fragilité qui rendait sa candidature très compliquée. Et d'ailleurs, lui-même le savait. Tout ça, parfois, on a l'impression qu'il a multiplier les actes manqués parce qu'il savait, la moitié de lui savait que ça ne passerait pas, qu'il ne tiendrait pas.
C'est un peu la thèse de Gérard Miller qui avait fait un documentaire sur Strauss-Kahn, justement. Est-ce que ce n'est pas des actes manqués pour à un moment dire je ne veux pas y aller ?
En tout cas, s'il avait été élu, il ne serait pas resté 6 mois au pouvoir. Donc on peut toujours parler de complotisme, mais la vérité, c'est que ceux qui ont fauté, c'est ceux qui l'entouraient et qui ont pensé qu'il pouvait être candidat.
Sur une autre candidate, cette fois-ci socialiste, à la présidentielle, elle qui a vraiment fait campagne en 2006-2007, Ségolène Royal, vous avez écrit également un livre il y a quelques années. Comment vous voyez la trajectoire de Ségolène Royal ces dernières années, notamment avec des déclarations très polémiques sur la réalité de certaines exactions commises par les troupes russes en Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, et puis son recrutement récent sur C8, donc la chaîne de Bolloré, comme chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna.
Elle raconte tellement l'époque, cette femme qui est une ancienne élève de l'ENA, qui a été candidate à la présidentielle, qui a été d'ailleurs malmenée pendant cette campagne, il faut bien le dire, avec des attaques ultra macho, voire plus, qui avait décidé, qui avait compris avant Emmanuel Macron, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui on ne réussissait pas avec les partis traditionnels classiques, puisqu'elle avait créé elle-même ses désirs d'avenir et qu'elle avait pris ses distances avec le PS. Ça, elle a très bien compris que l'époque changeait. En revanche, sa trajectoire intellectuelle me navre, évidemment. Quand je l'entends mettre en doute ce qui se passe en Ukraine, je suis fascinée. Avec Didier Raoult, elle a été plus que complaisante. Donc je trouve que malheureusement, elle raconte ce qui est en train de se produire, y compris au sein des élites françaises, c'est-à-dire elle est gagnée par le complotisme, la négation du réel, elle n'a plus le goût de la vérité, et c'est tragique.
Mais justement, toutes ces personnes dont on parle, hein, et aussi Ségolène Royal, on sait qu'aussi, sans ces déclarations fracassantes, sans son complotisme et sans cette émission télé, on n'entendrait peut-être plus parler d'elle. On sait qu'aussi, c'est une façon, toutes ces personnes qu'on a nommées, la plupart en tout cas, sans ça, sans
vous
être... cette pensée dominante qu'il ne cesse de dénoncer, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Quoi. Alors,
oui.
Je ne parle pas de Ségolène Royal.
Vous avez tout à fait raison. Si on l'invite, c'est parce que c'est l'économie des chaînes tout à faux. Et il y a une particularité française, c'est le nombre de chaînes d'information continue en France, beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. Et pour faire vivre une chaîne d'information en continu, ça ne coûte pas très cher d'ailleurs, il faut faire des plateaux avec du fight. Et alors là, évidemment, Ségolène Royal est une merveilleuse bonne cliente, comme on dit, parce qu'évidemment, ça va faire polémique, hein, ça va rebondir, et donc elle va dire ça, il y aura la réponse d'un tel ou un tel dans une autre émission, et voilà, c'est comme ça aussi qu'on fabrique de l'événement. On peut désormais fabriquer de l'événement sur un plateau de télévision. Et on peut faire des heures là-dessus à très bas prix. Et c'est évidemment cette logique économique particulière et française et qui permet à certains personnages de percer. Je repense à Didier Raoult, mais le nombre d'heures d'émission que Didier Raoult a fait à la télévision, c'était insensé. Ça marchait, donc on le réinvitait. Et tant pis s'il disait n'importe quoi. Les chaînes tout à fait ont une grande responsabilité dans la panthéonisation, j'allais dire, de Didier Raoult. Il y a eu beaucoup moins d'émissions quand on s'est rendu compte qu'il s'était trompé.
Alors, il y a les chaînes d'infos en continu, et puis il y a les plateformes de réseaux sociaux, et une en particulier, qui est Twitter, devenu X, depuis son rachat par Elon Musk. On a vu, là, très récemment, Elon Musk se rendre à un rassemblement des extrêmes droites européennes. On sait son penchant pour le populisme de droite, son approche très libertarienne des enjeux autour de la liberté d'expression, et la transformation de cette plateforme sous son égide. Enfin, je veux dire, c'est une plateforme qui aujourd'hui rémunère des désinformateurs, en fait. l'Union européenne est en train, la Commission européenne est en train de prendre des mesures sur la base du Digital Services Act pour essayer de réguler notamment cette plateforme, en tout cas de la rappeler à ses responsabilités. Là aussi, est-ce qu'un journal comme celui auquel vous appartenez, Le Monde, est-ce que des grands journaux au-delà du Monde, qui arrivent à collaborer, ces journaux entre eux d'ailleurs quand ils le veulent, à se coordonner sur des affaires comme les Panama Papers, etc., est-ce qu'ils n'auraient pas un intérêt objectif, ne serait-ce que pour l'information, à quitter cette plateforme? On sait que là, on a Quotidien qui a annoncé qu'il allait quitter, par exemple, Twitter.
Le débat est ouvert, y compris au sein de la rédaction. Moi, depuis 2-3 ans, j'ai toujours entendu les responsables de la rédaction en chef du Monde, directeur de la rédaction, ancien directeur de la rédaction, dire il faut quitter Twitter. Je l'ai toujours entendu, mais là, ils parlaient en leur nom propre. Hein.
Oui.
Mais le débat, évidemment, il est lancé. Il existe au sein du Monde, évidemment.
Parce qu'on peut imaginer que si, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de grands journaux internationaux, prescripteurs, disaient, bon, nous, maintenant, on n'a plus rien à gagner, on y perd, en fait. On perd des plumes à rester sur cette plateforme qui est devenue toxique. On va tous partir massivement, d'un coup. J'imagine que c'est compliqué à coordonner, mais imaginons. Sur Twitter, il resterait que, finalement, des désinformateurs, une sorte de cloaque, et les gens partiraient aussi. En réalité, les gens intéressants sur Twitter, je crois, ils suivraient les sources d'informations fiables.
Bah, on voit bien que depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est beaucoup moins intéressant. De toute façon, on le voit de manière tangible tous les jours. Alors écoutez, voilà, moi je ne suis pas directrice de journaux, je ne connais pas du tout assez pour savoir si votre plan marcherait. Je ne sais pas, ça me paraît séduisant, mais j'en sais rien.
Ouais. D'autant que c'est une plateforme qui a acquis une certaine centralité dans le débat public. On parlait des chaînes d'infos en continu, à peu près tous les jours, on commente les tweets des uns et des autres.
On alimente le débat. Il faut, quand on est attaqué, il ne faut jamais répondre sur Twitter. Ça, c'est la règle numéro un.
C'est vrai?
Ah ben jamais.
D'accord. Bon, mais on retient ce conseil. Eh bien, merci beaucoup, Ariane Chemin, pour votre présence à nos côtés dans cette dernière émission de l'année 2023. Je rappelle que vous publiez Ne réveille pas les enfants aux éditions du Sous-sol. Merci, Valérie. C'était Les Déconspirateurs, une émission réalisée par Martin Béraud avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la DILCRA. Toute l'équipe de Conspiracy Watch se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes en famille, et on se retrouve très vite en 2024 pour de nouveaux épisodes. À bientôt.
Au revoir.